Ma communication s'intitule « Personnage de papier ou personnage de chair ». Au cours des dernières décennies, le personnage de roman en tant qu'être de chair et d'os s'est vu dénier toute réalité au profit d'une conception du personnage de papier, voire de l'actant, réduit à une simple fonction narrative. Alors c'est une conception qui a été effectivement très productive en termes narratologiques, en ce sens qu'elle a permis de mettre en évidence les structures universelles et ou spécifiques du récit. En revanche, elle occulte la dimension charnelle de personnages dont le roman, de par sa nature même, nous raconte les tourments physiques et moraux. Donc je voudrais un peu développer cette idée du personnage de chair, et je vais faire cela en trois temps. Dans cette communication, premièrement, le rôle du corps, d'une manière générale, dans le récit romanesque. Ensuite, deux exemples littéraires des rapports de pouvoir auxquels il donne lieu. Et enfin, deux autres exemples montrant comment la littérature de science-fiction envisage ce phénomène. Donc, d'abord, le corps du personnage de roman en général. En premier lieu, je vous rappelle que dans l'étude du récit, on distingue deux plans. Le plan de l'histoire, qui est celui dans lequel vivent et interagissent les personnages, et le plan du discours, où le texte est considéré en tant qu'objet verbal proprement dit. Dans le plan de l'histoire, deux cas sont à considérer. Premier cas, le personnage est absent. Cette absence, bien que souvent sans incidence réelle, peut être au contraire déclarée, voire thématique, son corps s'inscrivant alors en négatif par le manque qu'il crée. On a un exemple de cette situation avec Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras, 1952, où le narrateur aide l'héroïne à chercher à travers le monde un marin qu'elle a aimé autrefois, mais qui n'existe dans l'histoire que par son absence et les récits qu'elle fait de leur passé. L'autre cas, bien sûr, le personnage est présent. Là encore, il y a plusieurs possibilités. Soit sa réalité physique est entièrement déniée, parce qu'il se réduit à une voix dont on ignore l'appartenance, ou bien parce que c'est un fantôme ou une ombre. Mais le plus souvent, il intervient véritablement, bien qu'avec un degré d'importance très variable. Soit de manière anecdotique, à travers des gestes ou des attitudes qui indiquent sa position dans l'espace, il s'installa sur le divan, ses émotions, il rougit, etc. Soit de manière thématique, les tensions internes ou externes qu'il vit formant le sujet du passage envisagé. C'est par exemple le cas d'un héros malade, ou encore de deux protagonistes qui se battent. Dans le plan du discours, la nature organique du corps figure selon quatre modes distincts que les auteurs utilisent selon les nécessités du récit. Premier mode, c'est ce que j'appelle l'organique occulté. Que le personnage soit omis ou mentionné, rien de la nature proprement organique de son corps n'intervient. Il se réduit alors à un nom, Tartempion, un déictique, il ou elle, ou un trait signalétique, l'homme, l'institutrice, etc. Deuxième possibilité, l'organique substitué. Sans être désigné en tant que tel, le corps apparaît à travers des objets qui le représentent en partie ou en totalité. Des objets métaphoriques qui le distinguent par substitution, ainsi le serpent qui symbolise le sexe masculin au chapitre 10 de Salammbô, de Flaubert, ou des objets métonymiques qui le désignent par proximité. Par exemple, dans La Cousine Bête de Balzac, le premier portrait de la Cousine Bête est uniquement constitué de la description de ses vêtements. Troisième possibilité, l'organique indirect. À l'intérieur d'un portrait comme d'une scène, le corps est désigné de façon effective, mais uniquement à travers ses facultés, les cinq sens, la respiration, la digestion, la motricité, etc., et ces données de base, la race, le sexe, l'âge, la taille, la beauté, etc., c'est-à-dire des éléments abstraits, que l'on peut préciser sans que ces parties solides ou fluides soient nommées. Ces perceptions, son effet et son action sur l'extérieur lui donnent ainsi, à travers la manière dont il interagit avec son environnement, une première réalité. Et enfin, quatrième possibilité, l'organique direct. L'effet de réalité précédent est accentué quand sont citées nommément certaines parties du corps qui font irruption dans le discours sous forme de substantifs, ses os, son bras, ses muscles, parfois d'adjectifs, nerveux, musclé, coloré, etc. Cela s'observe dans le cas du portrait comme dans celui de la scène, que le personnage intervienne dans celle-ci de façon passive ou active. Sur le plan verbal, l'élargissement d'un vocabulaire purement anatomique, sinon clinique, à des termes métaphoriques caractérisant l'aspect des parties désignées, voire des termes d'argot qui en épinglent un trait spécial, renforce cet effet d'irruption. Par exemple, elle avait sur la tête une choucroute d'un blond hardi. Hein, bon, ça stigmatise davantage qu'une chevelure. Le corps ainsi appréhendé, la question qu'il convient de se poser est son incidence sur l'expression romanesque. Et cette incidence peut être observée à trois niveaux qui sont évidemment la description, la narration et le dialogue. Dans la description, cette incidence correspond non seulement à la caractérisation physique, locale ou permanente, du personnage, mais également au jugement que l'auteur exerce sur lui et qu'il transmet au lecteur en dosant éléments positifs et négatifs. Hein, certains portraits où on insiste sur la laideur ont pour but de faire trouver le personnage antipathique au lecteur, par exemple. Parfois aussi, un détail particulier, comme la jambe de bois du capitaine Ahab dans Moby Dick de Melville, prend une valeur de symbole, sa singularité devenant alors emblématique. D'ailleurs, il y a un autre capitaine, c'est le capitaine Crochet, qui lui porte carrément le nom de la partie du corps qui lui manque. La description des sensations, quant à elle, fait appel à la fois à des éléments internes et externes, du fait qu'elle place le personnage en interaction avec l'environnement. Il est alors possible de rendre compte du phénomène d'un double point de vue, le sien et celui de l'extérieur. Ceci étant, le jeu suprême de l'auteur reste celui du dit et du non-dit, qu'il s'y livre pour des raisons de pudeur, de tabou ou au contraire d'efficacité. Aucun discours, si précis soit-il, ne pouvant tout dire du corps d'un personnage, le rôle des ellipses dans la description demeure fondamental. Ce sont d'ailleurs elles qui offrent au lecteur son espace d'interprétation. Et qui font par exemple qu'un personnage donné pourra être interprété par différents acteurs au cinéma, parce que son physique n'est pas de toute manière déterminé une fois pour toutes. La narration maintenant. Pris isolément, le corps d'un personnage intervient dans la narration de deux manières différentes. Soit par une action portée, qui lui permet d'agir de façon active ou réactive sur son environnement, soit par une action bloquée, obstacle, blessure, maladie, où la souffrance et la difficulté d'agir lui créent un conflit d'où naît la tension dramatique. Lorsque le héros interagit physiquement avec d'autres personnages, on retrouve la distribution narratologique entre auxiliaire et antagoniste, qui s'exacerbe dans les rapports érotiques et thanatotiques et leurs transmutations éventuelles. Dans ces rapports, le corps apparaît comme un instrument de pression, que ce soit à travers le registre du plaisir ou celui de la souffrance, avec toutes les manipulations qui en dérivent. Du bénéfice secondaire que l'infirme tire de son handicap, à la feinte pure et simple, où le corps prétend être autre pour mieux manœuvrer son partenaire. La narration et le corps, enfin, se rejoignent dans la dimension temporelle, qui se traduit pour l'une par la double durée événementielle de l'histoire et du discours, pour l'autre par le vieillissement, ces trois éléments étant en constante interaction, tantôt en synergie, tantôt en opposition, ce qui se joue entre eux étant une des composantes du discours et de la logique romanesque. Enfin, le dialogue. Dernier lieu de l'inscription du corps, le dialogue maintient parfois celui-ci dans une occultation totale, au profit du seul échange verbal, que j'appellerais parole neutre. Mais le plus souvent, il lui accorde une place dans sa structure même, sous la forme d'une parole portée, en positif ou en négatif. Les émotions se reflètent alors dans le texte, dont elles affectent la syntaxe, le vocabulaire, le rythme, d'une manière qui peut aller de la simple nuance à l'éclatement. Le cas extrême est la parole rompue, celle qui ne parvient plus à jaillir du corps et qui débouche sur le silence, ou se traduit par une autre manifestation, un rire hystérique par exemple, chez Dostoïevski, dans Le Joueur, etc. Bon, alors tout ce que je viens de vous raconter, je vais quand même faire un petit peu ma pub, une extrémiste, ça se trouve développé dans un excellent ouvrage qui s'appelle « Le corps du héros » paru aux éditions Nathan et que vous pouvez acquérir à peu près jusqu'à la fin du mois, date à laquelle il sera pilonné avec toute la collection, le texte à l'œuvre, ainsi que m'en a informé Vivendi Universal. J'en viens maintenant à la deuxième partie, deux cas de paralysie romanesque. Depuis le XIXe siècle, l'utilisation de la maladie comme élément romanesque présente sur le plan narratif un intérêt particulier. En effet, elle constitue d'emblée, par les souffrances qu'elle engendre, un double élément de conflit, entre le malade et lui-même d'abord, puis entre le malade et son entourage tenu de se positionner vis-à-vis d'elle. Mais, en termes psychiques, elle est aussi un révélateur de tensions préexistantes, internes ou externes, auxquelles elle va donner forme et consistance selon des jeux où l'inconscient comme le conscient ont leur mot à dire. Lorsqu'un personnage de roman est soumis à une tension intérieure trop forte pour qu'il puisse la verbaliser, il fait ce que nous faisons souvent nous-mêmes, il tombe malade. Deux issues alors s'offrent à lui. Soit la maladie lui permet de dire à haute voix ce qu'il dévaste, soit c'est son corps qui s'en charge, en symbolisant le contenu de son tourment sous une forme plus ou moins explicite. Mais si ces deux possibilités peuvent coexister, leur union même ne suffit pas toujours à le délivrer. C'est donc dans cette perspective que je voudrais examiner, à propos de deux jeunes héroïnes paralytiques, la symbolique liée à un symptôme et les stratégies auxquelles elles donnent lieu. Auquel il donne. La première est donc Lisko Klakov, qui est un personnage des frères Karamazov de Dostoïevski, un roman qui date de 1880 et qui est donc contemporain des travaux de Charcot, dont les leçons sur les maladies du système nerveux, qui comprennent un vaste tableau de la phénoménologie hystérique, ont été publiés entre 1873 et 1884. Donc vraiment, on est en plein dedans. La jeune Lise, qui est âgée seulement de 14 ans, n'a pas une conscience claire de ce qui se trame en elle, ni du lien existant entre ses états d'âme et son symptôme. Une paralysie des jambes, dont l'origine est manifestement hystérique. Je cite, « La pauvre fillette ne marchait plus depuis 6 mois. On la transportait dans une chaise longue à roulettes. Elle avait un délicieux visage, un peu amaigri par la maladie, mais gai. Des lueurs folâtres brillaient dans ses grands yeux sombres, qu'ombrageaient de longs cils. » Dès le début, sa maladie apparaît à travers un triple lien, avec sa mère, qui la tient encore sous sa coupe, avec le starets Zosim, qui œuvre comme guérisseur, et avec Alyosha Karamazov, qui se destine à la religion et qu'elle tente de séduire avec une ingénuité un brin perverse. Une tirade de sa mère, venue avec elle voir le starets, nous donne une première idée de l'ambiguïté de sa paralysie. « Les fièvres nocturnes ont complètement disparu depuis 2 jours, à partir de jeudi, » dit la dame avec un empressement nerveux. « Ce n'est pas tout. Ses jambes se sont fortifiées. Ce matin, elle s'est levée en bonne santé. Regardez ses couleurs et ses yeux qui brillent. Elle pleurait constamment. À présent, elle rit, elle est gaie, joyeuse. Aujourd'hui, elle a exigé qu'on la mît debout et elle s'est tenue 1 minute toute seule, sans aucun appui. » Pendant la suite du roman, Lise ne semble jamais vraiment affectée par sa maladie, dont elle ne doute d'ailleurs pas de guérir très vite. Son énergie, en fait, est consacrée d'une part à titiller les inquiétudes de sa mère, d'autre part, à taquiner Alyosha. Elle va même jusqu'à envoyer au novice une lettre d'amour qui le conduit, parce que la grâce le guide, à accepter de se fiancer avec elle. Tout dans ce comportement révèle l'adolescente qui, bien que jouant à être une femme, veut encore rester une petite fille. Autrement dit, bloquée dans son évolution, elle traduit ce conflit plus sérieux qu'elle ne semble en avoir conscience par une incapacité de marcher qui s'avérera effectivement temporaire. Le contenu psychique de son symptôme se confirme d'ailleurs au moment où il disparaît. D'une part, lorsqu'elle retrouve l'usage de ses membres inférieurs, sa mère se voit à son tour atteinte d'une affection du pied, comme si par un phénomène de vase communicant lié à la nature fusionnelle de leur relation, la fille ne se dégageait de son mal qu'en le transmettant à sa mère, ou de manière inverse, ne se dégageait de sa mère qu'en lui laissant son mal en gage. D'autre part, à cette occasion, on apprend que Lise a repris sa promesse d'épouser Alyosha. Là encore, elle se libère d'un lien enfantin qui lui apparaissait obscurément comme une façon d'échapper à sa mère, mais dont la maturité qu'elle a acquise la dispense. Il y a donc ici non seulement une symbolisation d'un conflit, mais également une tactique inconsciente pour le résoudre, ce qui nous amène au deuxième aspect du symptôme, sa fonction stratégique. Le jeu transactionnel auquel se livre Lise a pour cible, d'un côté sa mère qu'elle fait enrager, de l'autre Alyosha qu'elle s'amuse à séduire. Elle s'applique à faire de sa maladie un moyen de domination sur eux, mais d'une manière qui demeure ludique. Confrontée au problème du bien et du mal par les drames réels qui se jouent autour d'elle, elle ne peut persister éternellement dans cette attitude. Sa stratégie inconsciente qui devrait lui permettre de rester une femme enfant est vouée à l'échec. La guérison correspond pour elle à une double prise de conscience, celle de cet échec d'abord, qu'elle admet en reprenant sa promesse enfantine d'épouser Alyosha, celle de ses démons intérieurs ensuite, qu'elle lui dévoile sans détour lors de leur dernier entretien. Je cite « Je ne veux pas faire le bien tout simplement, je veux faire le mal. Il n'y a là aucune maladie. » Pourquoi faire le mal ? Pour qu'il ne reste rien, nulle part. Ah, comme ce serait bien. Savez-vous, Alyosha, je pense parfois faire beaucoup de mal, de vilaines choses, pendant longtemps, en cachette. Et tout à coup, tous l'apprendront, m'entoureront, me montreront du doigt, et moi, je les regarderai. Ce sera très agréable. Bon, il reste évidemment quelque chose de puéril dans cette déclaration. Pour la faire, d'ailleurs, Lise est encore assise dans son fauteuil d'infirme, mais en réalité, elle n'en a plus besoin. La verbalisation de ses mauvais penchants est le signe qu'elle a recouvré la santé. Dans ce processus, Alyosha a tenu bien avant Freud le rôle de psychanalyste. En accueillant ses propos destructeurs, il lui permit de sortir à la fois de la somatisation et du transfert. La stratégie consciente de Lise, se servir de la maladie pour le manipuler, a donc échoué. Mais sa stratégie inconsciente, s'appuyer sur lui pour sortir de l'enfance, a réussi. En acceptant la part de mal qui est en elle, elle devient capable, dans la réalité, de faire le bien. Ainsi, au dernier chapitre, fait-elle recouvrir de fleurs le cercueil du petit Ilyusha. Deuxième jeune paralytique, Edith de Kekesfalva, l'héroïne de La pitié dangereuse de Stefan Zweig. Si Lise, malgré ses velléités diaboliques, reste une figure lumineuse, son pendant tragique apparaît en 1938 avec Edith. Un peu plus âgée que Lise, 17 ans, 18 ans peut-être, est-il dit, elle est paralysée depuis 5 ans. Elle est donc elle aussi tombée malade au seuil de l'adolescence, mais aucun traitement n'a pu la guérir, et le contenu psychique de son symptôme, si tant est qu'il existe, ne semble pas évident. Plutôt qu'aux origines du mal, d'ailleurs, Zweig s'intéresse à ses conséquences sur les rapports de la jeune fille avec son entourage. Le point de départ du roman est une maladresse d'Anton, le narrateur, qui, rencontrant Edith lors d'un bal et ignorant son handicap, l'invite à danser. Tout crise de larmes de la jeune fille, culpabilité du jeune homme, envoi d'un bouquet le lendemain matin, invitation à un thé l'après-midi, etc. Ainsi s'amorce entre eux une relation infernale, où l'amour de l'une se heurte à la pitié de l'autre, une pitié qu'elle provoque tout en la repoussant, et dans laquelle ils s'enlisent de plus en plus jusqu'à la tragédie finale. Sur cette pitié, la jeune fille s'exprime avec une dureté féroce. Je cite. Je sais très bien que vous respirez avec soulagement chaque fois que la porte s'est refermée sur moi et que vous me laissez là, étendu comme un cadavre. Je sais comme vous soupirez d'un ton paplard, la pauvre enfant, et en même temps être hautement satisfait de vous, parce que vous avez sacrifié une heure ou deux à la pauvre malade. Mais je n'en veux pas de vos sacrifices. Je ne veux pas que vous vous croyiez obligé de me servir ma portion quotidienne de pitié. Je me fiche pas mal de votre pitié. Si vous voulez venir, venez. Et si vous ne voulez pas, eh bien ne venez pas. Je vous le dis, je m'en fiche. Chaque fois qu'elle le déstabilise ainsi, cependant, elle multiplie aussitôt les manœuvres de séduction, manœuvres où s'expriment à la fois l'enfant et la femme, et auxquelles, se sentant coupable de l'avoir bouleversé, il ne peut que céder. Ainsi s'instaure entre eux un jeu complexe de double contrainte. Pour lui, d'un côté, le désir de rester près d'elle pour lui venir en aide. De l'autre, celui de s'enfuir pour préserver sa propre existence. Pour elle, d'un côté, le désir de guérir et d'être vraiment aimé de lui. De l'autre, la conscience d'être incurable et de ne le garder près d'elle que parce qu'elle est malade. Entre eux, d'un côté, la vérité impossible à dire. De l'autre, le mensonge impossible à croire. L'infirmité de la jeune fille étant l'axe autour duquel la relation se construit et se détruit, son corps devient l'arbitre de l'avenir. Un nouveau traitement ayant été envisagé, l'espoir d'une guérison les amène à unir leurs énergies, jusqu'à un simulacre de fiançailles, aussitôt suivi par une scène terrible où, pendant quelques instants, Edith parvient à marcher. Un prodige de volonté avait réveillé ses jambes mortes. À vrai dire, ce n'était pas une marche, c'était plutôt un vol au ras du sol, le vol tâtonnant d'un oiseau aux ailes coupées. Mais la volonté, ce démon du cœur, la poussait de plus en plus loin. Déjà, elle était tout près de nous. Dans le triomphe de l'effort accompli, elle avançait vers moi ses bras. Ses traits se détendaient pour faire place à un sourire de joie. Encore deux pas, non, un seulement. Et le miracle était accompli. Déjà, sa bouche ouverte me faisait sentir son haleine lorsque l'effroyable se produisit. Par suite du mouvement violent avec lequel elle avait tendu les bras, elle perdit l'équilibre. Comme si on les eût fauchés, ses jambes s'effondrèrent soudain. Elle s'écroula à mes pieds en même temps que ses béquilles tombaient avec fracas sur le dur carrelage. Et effrayé, je reculais involontairement, au lieu de faire la chose qui s'imposait la plus naturelle, l'aider à se relever. La chute de l'une, le recul de l'autre, rompent de manière définitive le mirage dans lequel ils se sont piégés. Ces deux mouvements amplifiés mènent le roman à sa conclusion. Anton prend la fuite et Edith se jette du haut de sa terrasse. Ces deux exemples, donc celui de Lise et celui d'Edith, tendent à montrer que dès qu'il y a maladie romanesque, il y a stratégie. Celle-ci peut ainsi se développer de deux manières. Quand elle précède le symptôme, elle correspond à une volonté de l'inconscient d'exprimer un conflit intérieur par le biais du corps, faute de pouvoir le formuler verbalement. C'est donc d'abord une stratégie interne de réorganisation des énergies psychiques et physiques, mais aussi une stratégie à visée externe, puisque son but est d'envoyer à l'entourage un signal de détresse. Quand elle suit le symptôme, elle correspond à une volonté, consciente ou non, de l'utiliser pour asservir l'entourage, en jouant sur le désir qu'a celui-ci de venir en aide au malade, désir entaché d'un sentiment de culpabilité plus ou moins fantasmatique. Dans tous les cas, le malade se retrouve piégé dans un réseau de doubles contraintes, besoin et impossibilité de dire la souffrance, comme de renoncer, la souffrance morale, comme de renoncer à la souffrance physique. Ce qui nourrit son symptôme et se nourrit de lui. Ce réseau s'étend à son entourage qui, selon le cas, va s'y laisser prendre ou s'en dégager. De cela va défendre, en fait, l'issue du conflit. La paralysie de Lise est un moyen de dire l'indicible à son entourage, à savoir « je suis une femme ». Elle rencontre dans la personne d'Alyosha un interlocuteur qui, tout en étant entièrement à son écoute, garde assez de recul pour ne pas se laisser piéger dans son jeu. En ne cédant pas à sa manœuvre, Il l'oblige à sortir de la double contrainte et de ce fait la sauve. A l'inverse, piégé par la paralysie d'Edith, son entourage cède à la stratégie qui s'est mise en place et la jeune fille, prise entre sa paralysie et son désir de marcher, entre l'amour qu'elle demande à Anton et la pitié qu'elle en reçoit, n'a aucune issue. La stratégie inconsciemment élaborée se retournant contre elle, le conflit aboutit à la mort. La maladie introduit donc dans la structure romanesque une radicalisation des tensions. Placée au centre des conflits qui opposent chaque personnage à lui-même et aux autres, elle jette sur ces conflits un éclairage particulier, en oriente l'évolution, en précipite l'issue. Mais son aspect le plus caractéristique reste ce jeu de double contrainte qui la déclenche et qu'elle engendre en retour. Double contrainte qui rend souvent ambigu le dénouement de ces conflits, l'échec d'une stratégie pouvant être la marque de son succès, et réciproquement. J'en viens maintenant à la troisième partie de mon exposé, donc deux récits de pathologie en science-fiction. La science-fiction, en tant que genre littéraire préoccupé par les incidences du progrès technologique sur l'homme, autant que par le devenir des sociétés, ne pouvait ignorer la question du corps et de ses altérations. Dans de nombreux ouvrages, au contraire, l'imagination des auteurs se déchaîne pour inventer des pathologies nouvelles qui sont autant de métaphores des désirs ou des souffrances que peuvent éprouver les personnages et dont le récit utilisera les implications pour créer une tension dramatique. Le premier exemple que je vais prendre est un roman de Robert Silverberg, Un jeu cruel. C'est pas un des romans les plus connus de son auteur. Date de 1967, mais il a l'intérêt de présenter trois personnages qui, dans leur corps même, quoique de façon très différente, possèdent chacun un trait exceptionnel. Le premier de ces personnages s'appelle Duncan Chalk. C'est un magnat pesant quelque 300 kilos qui se nourrit au sens propre du terme de la douleur des hommes et la livre en pâture aux foules par le biais de shows médiatiques savamment organisés. Je cite. Absorber la détresse d'autrui à l'état brut lui était aussi nécessaire que le pain et la viande pour les autres. Personnification suprême des goûts de son vaste public, il était parfaitement en mesure d'assouvir les besoins profonds de celui-ci. Mais, bien que sa capacité se fût émoussée au fil des ans, il n'était pas encore blasé. À présent, il se frayait son chemin à travers les orgies émotionnelles dont il était l'organisateur, en savourant une bouchée sensorielle par-ci, une gorgée sanglante par-là, mais veillant à garder assez d'appétit pour de plus grotesques permutations de cruauté, toujours en quête de sa sensation nouvelle et terriblement ancienne. Le deuxième personnage s'appelle Miner Buris. C'est un astronaute dont le corps a été disséqué et modifié par des extraterrestres, ce qui fait de lui un monstre physique digne de l'homme qui rit Victor Hugo. Citation. Buris ouvrit les yeux. Le mouvement des membranes qui lui servaient de paupières n'était pas vertical. Elles glissaient du centre vers l'extérieur. Il regarda ses mains, des doigts fins et fuselés qui n'avaient pas subi de modifications essentielles, à l'exception du tentacule préhensile qu'il lui avait greffé à chacune de ses phalanges extérieures. De plus, ces transformations lui causent de perpétuelles souffrances. Une broche était encastrée dans son cerveau, des crampons broyaient ses viscères, d'invisibles clous rivaient ses chevilles. Ses paupières irritaient ses globes oculaires comme de la toile émerie. La souffrance était incessante, elle commençait même maintenant à lui faire l'effet d'une vieille amie. Le troisième personnage, enfin, s'appelle Lona Kelvin. C'est une orpheline de 17 ans qui a été prise comme sujet d'expérience par des médecins. Ses ovules, prélevés et fécondés in vitro, ont donné naissance à des centuplés dont elle est en principe la mère, bien qu'elle soit toujours vierge et qu'on lui interdise de les voir. Après avoir été pendant un temps la cible des médias, elle retombe dans l'oubli et tente de se suicider. Citation. Lona, retournée à l'anonymat, ne pouvait plus être la même femme qu'auparavant, car quelque part, sans bébé, grandissait et profitait. Ce n'était pas seulement à ses ovaires, mais au tissu même de sa vie qu'on les avait arrachés, et elle en était encore révulsée. Sur ce trio, dont les relations donnent sa structure au roman, on peut d'emblée faire une remarque. Alors que l'anomalie de Chalk est due à un simple hasard génétique, celles de Miner et de Lona leur ont été infligées de façon délibérée, ce qui les prédestine au rôle de victime. Ceci posé, les règles du jeu qui s'ensuit sont très simples. Une fois rassasiés à titre individuel de la douleur de Miner et de Lona, Chalk les convainc en échange de promesses fallacieuses, un nouveau corps pour l'un, la possibilité de voir ses bébés pour l'autre, de former un couple médiatique dont le public suivra la vie intime heure par heure. C'est de la pure science-fiction, ça n'existe pas du tout dans notre société. Comme l'indique le titre, il s'agit là d'un jeu cruel. Et cela d'autant plus que, si l'on assemble les caractéristiques de nos protagonistes, on constate qu'elles recouvrent, tout en les opposant de façon redoutable, les cinq zones instinctuelles de survie des animaux. Nutrition, territoire, protection contre le danger, sexualité, protection des petits. C'est dire si pour chacun, les enjeux sont vitaux. Ces instincts se répartissent entre eux de la manière suivante. La nutrition, c'est Chalk avec sa façon d'absorber la douleur. Le territoire, c'est encore Chalk régnant sur l'empire des divertissements. La protection contre le danger, c'est Miner qui n'a pas pu se défendre contre l'agression des scalpels. La sexualité, Miner et Lona, couple auquel on voudrait croire mais qui se révèle impossible. Et enfin, la protection des petits, c'est Lona qui cherche désespérément ses bébés. C'est sur le point de la sexualité que joue la stratégie de Chalk. Car si un mélange de compassion mutuelle et de solidarité rapproche les deux victimes, il est vite clair qu'elles n'ont rien en commun. L'un est un homme mûr d'un niveau intellectuel élevé, devenu monstrueux sur le tard, mais d'une monstruosité qui excite certaines femmes. L'autre est une adolescente naïve, sans culture, privée de sa féminité avant de l'avoir connue. Leur relation est d'emblée vouée à l'échec, et Chalk, comme son public, peuvent se gorger de leur surcroît de malheur. La logique science-fictionnelle, cependant, leur offre un ultime recours. Après s'être séparés, ils constatent chacun de son côté que leur bourreau s'est joué d'eux, c'est-à-dire qu'il ne tient pas les promesses qu'il leur a faites, et comprennent qu'ils n'ont plus qu'une issue, puisque c'est en absorbant leur souffrance qu'il a prospéré, c'est en le gavant de cette même souffrance accentuée par ses soins qu'ils doivent le détruire. Réunis face à lui, ils la lui déversent intégralement jusqu'à ce que cette overdose le tue. Et Miner peut alors reprendre à leur propre compte la phrase emblématique de Chalk. La douleur est instructive. Le deuxième exemple est un roman, vous me pardonnerez, mais c'est moi qui en suis l'auteur. Il s'appelle « Rivage des intouchables » et il est paru en 1990. Et si je l'ai pris comme exemple, c'est parce que le précédent se situait au niveau des individus et que celui-ci étend la problématique à l'échelon des sociétés. Paru en effet donc en 90, au moment où le sida ravageait avant tout le milieu homosexuel, il avait pour but de tenter de répondre à deux préoccupations principales. Sensibiliser les lecteurs ne faisant pas partie de ce milieu à un problème dont ils mesuraient encore mal l'ampleur. Et d'autre part, mettre en évidence certains ressorts inconscients pouvant agir dans le développement de cette épidémie. Alors, si l'histoire de la communauté gay fournissait un schéma dramatique aux cinq étapes éloquentes, on avait les cinq actes de la tragédie classique, hein, répression, libération, rencontre d'un virus, effondrement, renaissance. Il fallait quand même placer l'action du roman dans un contexte différent, c'est-à-dire un contexte n'étant pas lié à la sexualité, pour que n'importe quel lecteur puisse se sentir concerné. Pour cela, le plus logique était d'utiliser le registre de la métaphore, en inventant une maladie dont le mode de transmission, bien que non sexuel, soit lié à la transgression d'un tabou. Ainsi est née la planète Erdaran, avec ses deux peuples qui y cohabitent. Les Gurdes, qui sont natifs du désert, rationnels, et dont la peau est formée d'écailles minuscules comme celle des lézards. Et l'autre peuple, les Irvènes, au tempérament aquatique, intuitif, dont la peau est pigmentée et caoutchouteuse comme celle des dauphins. À part ce trait de la peau, ce sont des humanoïdes. Et le lieu du tabou est donc non pas le sexe, mais la peau. L'interdit de base, qu'on appelle la loi Nastin, proscrit tout contact physique entre les deux races. L'inconscient collectif, étant sur cette planète, représenté par la Lumka, qui est une mère, qui est dotée d'une vie et d'une volonté propre. Sur cette base, on va suivre l'histoire d'une communauté plus réduite, les transvers, formés d'Irven et de Gurd, qui, évidemment, ne respectent pas la loi d'instinct, parce que quand il y a une loi, effectivement, il y a toujours des gens pour la transgresser. Donc ceux-là, on va suivre leur histoire, ils s'appellent les transvers. D'abord réprimés et clandestins, ils s'affichent peu à peu au grand jour. Puis, prenant le nom de transcrits, nombre d'entre eux commencent à échanger leurs signes externes. Tatouages de pigments pour les Gurdes, incrustations d'écailles pour les Irvènes. Enfin, au moment où ils ont conquis toutes les libertés, une maladie les frappe, dont les symptômes se développent bien entendu sur la peau, et qu'on appellera donc épidermie. Dès les débuts du sida, on a pu observer dans ces manifestations une grande diversité, à tel point qu'il semblait parfois que chaque malade eût un sida particulier. Cette idée reprise dans le roman a conduit à diversifier les symptômes de l'épidermie, chaque malade exprimant à la surface de son corps la problématique qui lui est propre. Alors je vais en passer 4 en revue. Le premier s'appelle Barnabé, c'est un Irven. Un oiseleur un peu fantasque qui voit sa peau devenir adhésive et retenir tout ce qui passe à son contact jusqu'à son ultime métamorphose. Et puis, le dernier matin, cette pathétique statue qu'ils trouveront debout sur le lit, un pied en l'air, le buste incliné, les bras à demi fléchis sur les côtés, cette forme qui n'est plus humaine puisque des milliers de plumes la recouvrent, blanche, grise, brunâtre, répartie du crâne aux orteils sur toute la surface de son corps émacié, tandis que les deux oreillers éventrés achèvent de se vider sur le dallage. Donc lui, il est devenu oiseau, symboliquement, mais il en meurt. Deuxième, c'est une jeune femme irvène également, qui s'appelle Meg, et qui souffre d'avoir fait trop de concessions aux autres, et qui rêve d'une virginité neuve, et son symptôme, à elle, consiste à perdre ses pigments et les écailles qu'elle s'était fait incruster jusqu'à ce que sa peau devienne entièrement transparente. Citation. Une écorchée. Oui, une écorchée, c'est ainsi qu'il la voit, sous son épiderme devenu transparent. Non plus humaine, mais anatomique. Un jeu de chair dépouillé de son identité. Une gravure d'encyclopédie s'exhibant en contorsions malsaines. L'éternel féminin réduit à la turgescence de ses fibres. À l'inverse, troisième personnage, le Gurd Georg Natkin, qu'on pourrait définir comme un psychorigide, souffre d'un durcissement de l'épiderme qui finit par lui interdire tout mouvement, le réduisant à l'état de statue vivante. Citation. Sa peau, durcie à l'extrême, le couvre d'une carapace rigide qui ne plie ni ne rompt et lui interdit tout mouvement. Hormis en quelques points, le haut du cou, les poignets, qui résistent encore, elle a pris l'aspect sec et lisse de l'os, le dessin des écailles désormais soudées les unes aux autres n'apparaissant pratiquement plus. Et enfin Cassian, l'un des deux héros du roman, Irven, séducteur et manipulateur, voit sa peau se couvrir de minuscules ocelles, donc des yeux minuscules, qui, loin de l'aider à contrôler le monde, lui en donnent une vision insoutenable. Trop d'images à contrôler, à assembler, à partir desquelles édifier un tout, alors qu'elle se dérobait constamment. Trop de désirs à cerner, les siens, ceux de ses proches, des étrangers, des animaux, des plantes. Trop de lois à intégrer dont il fallait à chaque fois saisir qui les respectait, qui les contournait, qui les violait. Une loucherie à 150 dimensions, dont la plus saugrenue recelait des vérités désarmantes. Une cacophonie de regards acharnés à se fondre, s'opposer, se détruire, lui livrant le monde à travers un jeu de kaléidoscope dont chaque facette était elle-même un univers sondé, disséqué, pulvérisé, en milliers de cellules, lesquelles à leur tour, etc. Le développement du récit se fait donc à la fois au niveau individuel et au niveau social. Au niveau individuel, chaque personnage atteint par la maladie est mis en face de ses contradictions et en impose l'image déformée à son entourage. Dans les trois premiers cas, l'issue du conflit sera la mort. Dans celui de Cassian, en revanche, grâce à un travail de l'inconscient qui fera surgir de la Lunca, donc cette mère un peu vivante, hein, une figure essentielle de son enfance, mais aussi grâce à l'apparition d'une race nouvelle combinant les caractéristiques des deux races précédentes, ce sera la guérison et bien sûr la maturation qui suit toute épreuve. Au niveau social, il apparaît que l'infravirus responsable de l'épidermie est en fait venu de la Lunca, donc de l'inconscient collectif. Je cite, « Suite une explication détaillée, à la gourde mais sans excès, sur la manière dont la Lunca a absorbé les siècles de haine raciale et intégré le tabou des épidermes comme une loi divine, au point de ne pouvoir s'adapter aux changements radicaux des dernières années. » En conséquence de quoi, on assiste à tous les phénomènes de rejet que peut engendrer une maladie si effrayante dans une société qui réprouve déjà ceux qui sont susceptibles de la contracter. Manifestations, lynchages, etc. Jusqu'à l'exil des malades sur une île mouroir. Le salut viendra à long terme d'une mutation dont le premier signe est la naissance d'un bébé portant à la naissance des signes combinés des deux races, écailles et pigments, en parfaite santé, est capable même de guérir les malades par projection mentale. En conclusion, je voudrais souligner à nouveau l'importance du rôle que joue dans le roman le corps du personnage, et cela en littérature générale autant qu'en science-fiction. Loin d'être un simple actant de papier, il participe avec tous les aspects de sa nature organique à la description, la narration et même au dialogue. Sa place dans la narration en particulier est essentielle, car il est le centre de nombreux conflits, aussi bien internes qu'externes. Il permet au personnage d'exprimer non seulement des émotions ou des désirs immédiats, mais aussi des aspects de son inconscient qui ne peuvent apparaître à travers ses propos ni ses actes. De plus, il peut intervenir entre les différents protagonistes en qualité d'enjeu, voire de moyen de pression, et cela aussi bien à l'échelle individuelle qu'au stade collectif. Enfin, si la littérature générale a porté ce type d'étude à un haut niveau de raffinement, la science-fiction lui a apporté une dimension supplémentaire. Par l'invention de pathologies fictives, elle a introduit dans ce champ une symbolique beaucoup plus vaste qui permet d'expliciter certains aspects occultes des relations de l'être humain à son corps et à celui de l'autre. Aspect que les seuls outils du réalisme ne suffisent pas toujours à éclairer. Merci.